nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour aller à la rencontre d'une institution qui, probablement à tort, est l'une peut-être des moins connues de l'Union européenne et que nous allons découvrir en compagnie de son membre de la présidence, M. Henri Malos. Henri Malos, bonjour.
Bonjour.
Il s'agit pour cette institution du Comité économique et social européen et vous représentez le groupe des employeurs. Alors, je vais peut-être, avant d'aller plus loin, vous présenter un peu plus à nos auditeurs. Vous êtes un Sciences Po Paris, vous êtes membre de la présidence, donc je viens de le dire, du CESE. Vous êtes conseiller institutionnel auprès de la présidence de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Vous êtes par ailleurs professeur chargé de cours sur les questions européennes dans plusieurs universités, oui. À Paris, mais aussi à Strasbourg. À Strasbourg, d'ailleurs, vous avez créé un DESS de politique publique en Europe, ainsi qu'en Pologne, dans une ville dont, qui est assez imprononçable.
Wrocław.
C'est ça.
Breslau est l'ancien nom allemand.
D'accord.
Il est plus
d'accord.
Facilement prononçable.
Et, enfin, et à Moscou.
Pour les germanistes.
Et à Moscou. Donc, c'est-à-dire oui. Que vous êtes un Européen, même au-delà même de l'Européen. Vous êtes un grand voyageur. Alors, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment « Il faut sauver le citoyen européen » chez Bruyland et « Unifier la Grande Europe ». Et vous avez impulsé de nombreuses réalisations européennes, dont la campagne d'information sur l'élargissement et le traité constitutionnel dans les années 2002, 2003, 2005.
Absolument.
Alors, peut-être un mot pour en venir ensuite à nos questions de présentation. Alors, je peux le faire ou vous le faites comme vous voulez, de la présentation du Comité économique et social européen qui a été institué par le traité de Rome en 1957 et l'Assemblée européenne consultative des partenaires économiques et sociaux de l'Union. Alors, peut-être...
Le faire.
Un commentaire un petit peu général.
Quelques mots
avant
d'abord,
qu'on...
parce que je trouve que c'est assez dommage que cette institution, organe institutionnel, ça n'a pas d'importance, ne soit pas très connue. Et ça s'explique d'ailleurs parce que, à l'origine, c'est Jean Monnet qui a voulu un comité économique et social. Il avait déjà institué une commission consultative auprès de la CECA, la communauté charbon-acier, de 1951. Et il a voulu associer les partenaires sociaux et les autres acteurs de la société civile à la construction européenne dès le début, en leur donnant un rôle consultatif. Alors ça a été pendant très longtemps un rôle, je dirais, discret, actif mais discret, beaucoup d'influence. Je rappellerai simplement que tout ce qui existe aujourd'hui dans le traité européen, que beaucoup trouvent encore insuffisant, mais ce qui existe aujourd'hui dans le domaine social, a été initié par notre comité. Mais je crois que nous sommes maintenant à une phase où il faut en finir avec les politesses et avec la discrétion, et où, alors que le fossé grandit malheureusement entre les citoyens, l'opinion publique et les institutions européennes, il y a, vous savez, une adhésion toujours importante aux idéaux européens, mais un rejet malheureusement sans cesse croissant des institutions, c'est-à-dire ce qu'on appelle Bruxelles, eh bien je crois que cette institution qui existe, qui est très originale, qui place au cœur des institutions de Bruxelles des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des acteurs économiques et sociaux, des responsables d'entreprises ou d'organisations d'entreprises, des responsables leaders syndicaux, des représentants d'organisations, d'associations diverses. C'est le moment où on doit, prendre les barricades, faire entendre notre voix et faire en sorte que l'Europe devienne plus humaine et plus proche des réalités et des besoins des gens.
Alors, vous avez un rôle consultatif, mais vous êtes aussi, par ailleurs, un passage obligé, car en fait, les autres institutions doivent solliciter votre avis.
C'est-à-dire que nous sommes un passage obligé selon les traités, puisqu'on nous demande de donner des avis sur toute nouvelle proposition, législation, programme, comme le Parlement européen d'ailleurs. Mais à la différence du Parlement, nous ne sommes que consultatifs, nous ne sommes pas codécisionnels. Alors j'ajouterai quand même que nous avons, ce qu'on n'utilise pas assez ou pas toujours à bon escient, nous avons un droit d'initiative, c'est-à-dire que nous pouvons mettre sur la table du Conseil des ministres, du Parlement européen, du Conseil européen, des nouvelles idées, de nouvelles propositions. Et nous l'avons fait dans le domaine social, nous l'avons fait dans le domaine des questions de société. Et nous l'avons fait aussi récemment, et notre groupe, le groupe des employeurs, sur des questions économiques, sur des questions touchant la vie des entreprises, notamment pour simplifier la vie des entreprises. Je citerai par exemple l'établissement d'un statut européen de société pour les grandes et maintenant pour les petites entreprises.
Alors c'est un organisme qui est en quelque sorte paritaire, hein, bien qu'il y ait trois groupes.
Tripartite.
Voilà, tripartite. Hein, qui donc, à la différence du Conseil économique et social français, j'imagine qu'il lui est aussi tripartite ou simplement, là j'ai un doute, ou bipartite.
Le Conseil économique, social et environnemental,
c'est ça.
Pour qui s'appelle aussi CESE, est multiforme. Il y a 18 groupes.
C'est ça, oui. Donc...
Mais c'est à peu près... l'essence est la même. C'est-à-dire, il y a les organisations patronales, dans leur diversité, comme chez nous, c'est-à-dire employeurs, chambres de commerce, petites et moyennes entreprises, artisanat et autres. Il y a après le mouvement syndical. Chez nous, un seul groupe. Dans le Conseil français, chaque syndicat a son propre groupe. Et puis, il y a toute, je dirais, la nébuleuse, mais prenez pas ce terme sens péjoratif, c'est-à-dire tout l'ensemble de ce qu'on appelle la société civile. Ça va des associations de jeunes aux consommateurs, aux associations de femmes, aux défenseurs de l'environnement, au monde agricole aussi, et tout ceci donc est dans, chez nous dans le troisième groupe au niveau européen qu'on appelle le groupe des intérêts divers.
D'accord, activités diverses. Et donc le Conseil est composé de 344 membres, donc un nombre assez important. Vous êtes des conseillers, vous êtes issus de milieux socio-économiques de l'ensemble de l'Europe. Et votre nomination est proposée par les gouvernements nationaux.
Absolument, c'est-à-dire que ça se fait au travers d'une concertation entre les gouvernements nationaux et les forces économiques et sociales. Et sur cette base-là, nous sommes en fait proposés par les gouvernements au Conseil européen, et c'est le Conseil des ministres européens qui nous nomme. Donc nous sommes et nous avons le même, titre de fonction que les membres du Parlement européen ou les membres de la Commission européenne. Nous sommes membres d'une institution européenne nommée par le Conseil et le traité garantit notre indépendance. Même si nous sommes proposés par des organisations, des associations, nous devons exercer notre mandat dans l'intérêt général de l'Europe et en toute indépendance, y compris l'indépendance de toute pression. On nous demande d'ailleurs de faire des déclarations d'intérêt financier pour éviter que dans nos avis, on puisse imaginer que par derrière, nous cherchons à faire prospérer telle ou telle société ou tel ou tel intérêt.
Ça arrive rarement, ça, mais enfin
tout peut arriver dans la vie.
Je plaisantais.
Tout peut arriver dans la vie.
Donc, une institution tripartite, indépendante, avec des conseillers qui sont nommés par les gouvernements nationaux. Et vous avez comme autre originalité d'avoir une présidence tournante tous les, combien, tous les deux ans, c'est ça ?
Deux ans et demi maintenant.
Deux ans et demi.
Le traité de Lisbonne, c'est maintenant deux ans et demi.
Deux ans et demi. Donc tour à tour, chacun des groupes, j'imagine, occupe cette,
voilà,
cette fonction,
groupes, donc...
trois groupes. Et cette fois-ci, ce doit être le tour des employeurs. Donc
absolument.
On va dire que vous êtes pressenti largement pour occuper une fonction de la plus haute dans cette institution.
Effectivement.
Voilà. Donc, vous êtes doublement légitime pour qu'on fasse un tour d'horizon peut-être un peu plus large et en abordant les questions d'actualité sur l'Europe, l'actualité, l'Europe est dans l'actualité. La première question qui, bien entendu, interpelle tous nos auditeurs, c'est de savoir quel va être l'avenir de l'Europe et est-ce que de votre poste d'observation très particulier, vous croyez toujours à l'avenir de l'Europe ? Enfin, je dirais que la réponse est quasiment dans la question, mais en tout cas, j'aimerais bien vous entendre sur ce plan.
Oui, je crois que si je n'y croyais pas, je ne resterais pas.
Oui.
Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui sont dans les institutions européennes devraient avoir le même raisonnement que moi. Pour moi, l'Europe, ce n'est pas une carrière. Pas carrière dans les institutions européennes. Pour moi, c'est un engagement et c'est une passion. Donc, je crois en l'Europe et, comme je disais, si je n'y croyais plus, je ferais autre chose. Je pense que chaque fois, on le dit, hein, on dit on a un tournant, on est à un moment de vérité. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais je crois qu'à chaque crise, jusqu'à présent, l'Europe a progressé. Mais elle a progressé chaque fois à petits pas. Et une fois encore, après ce sommet du week-end dernier, d'un côté, moi, je suis optimiste. Et je voudrais que le plan nouveau traité qui a été proposé réussisse. De notre côté, je me demande si ce n'est pas insuffisant, s'il ne faudra pas de toute façon aller plus loin et si on n'aurait pas pu déjà commencer par aller plus loin. Mais bon, on est dans la logique du possible et du souhaitable et c'est déjà, je trouve, une réponse commune à 26 sur 27 et c'était là, je crois, la meilleure réponse possible qu'on pouvait faire à ce moment-là et sur lequel on pouvait trouver un accord. Mais moi, je suis optimiste pour la construction européenne. Je suis optimiste pour l'Europe. La construction européenne en elle-même, ce n'est pas très intéressant. Les institutions, elles sont, elles vont, elles viennent. Les traités, ils vont, ils viennent. Ce qui compte, c'est l'idée qu'aujourd'hui, nos pays ne pèsent plus dans le monde, que nos économies sont trop faibles dans le monde et qu'on a besoin d'un ensemble fort, d'un ensemble solidaire pour à la fois assurer la prospérité, donner des emplois à nos jeunes, assurer le fonctionnement de l'économie, donner à nos entreprises des perspectives de marché intérieur suffisamment larges et avoir un poids politique dans le monde suffisant pour ne pas se faire marcher sur les pieds par d'autres puissances mondiales dont on sait qu'elles ne sont pas toujours ni démocratiques, ni respectueuses des droits de l'homme, ni même si pacifiques que cela. Et donc dans cette logique, nous avons besoin d'une Europe très forte. Et donc ce besoin, un jour ou l'autre, il se fait sentir. Un jour ou l'autre, les peuples vont le comprendre et vont le sentir et vont le ressentir. Et les institutions que nous avons sont ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'à présent pour faire vivre cet espoir d'une Europe forte, solidaire et prospère.
Oui, évidemment, ce qui a pêché dans la période de crise récente, en tout cas vue par l'opinion, c'est une forme d'indécision liée à un système de gouvernance. Alors, il semble qu'à travers cette crise, cette gouvernance soit renforcée. C'est votre sentiment aussi
bien J'en suis pas sûr. Honnêtement, j'en suis pas sûr. Je pense qu'on a paré au plus pressé. Je dirais, pour être une expression un peu vulgaire, on a sauvé les meubles.
Ouais.
J'espère que ça va tenir. Mais on n'a pas réglé le problème de gouvernance de l'Union européenne qu'il faudra qu'on règle un jour.
Donc c'est le grand sujet.
Oui, c'est un des grands sujets. Moi, je veux dire un des deux grands sujets. Qui est que, bon, on n'a toujours pas de pilote dans l'avion, on n'a toujours pas de véritable pouvoir exécutif européen. Aujourd'hui, il y a un paradoxe aujourd'hui. C'est que d'un côté, les présidents des institutions européennes, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, il y a au moins Parlement européen, Commission, Conseil, M. Van Rompuy, M. Barroso, M. Buzek, pour les citer, trépignent en disant méthode communautaire, il faut jouer la méthode communautaire. Mais eux-mêmes, dans les mois passés, n'ont pas montré tellement volontaires, n'ont pas fait des propositions tellement audacieuses et ont montré, je dirais, une certaine faiblesse des institutions européennes, une incapacité à proposer, une incapacité, par exemple, à se mettre en question. Par exemple, à dire, si ce que je propose n'est pas adopté, je m'en vais. Or, là, on a vu des gens plutôt soucieux d'avoir l'accord des uns et des autres et donc à chercher, je dirais, à temporiser. Et face à ça, c'est vrai que les chefs d'État et de gouvernement, notamment Mme Merkel et le président Sarkozy, ont pris taureau par les cornes, ont proposé des mesures. Alors on a dit c'est le retour de l'intergouvernemental. C'est vrai, je le regrette, mais que pouvait-on faire de mieux face à des institutions faibles? Donc on doit relégitimer les institutions européennes. Est-ce que ça doit être la Commission, le Conseil, le Parlement? J'en sais rien. Je ne suis pas sûr que la Commission européenne aujourd'hui, avec ses plus que 30 000 fonctionnaires, ses responsabilités de gestion énormes, ses 27 commissaires un par pays avec des portefeuille pas très très bien défini, je ne suis pas sûr que la Commission européenne puisse être le véritable pouvoir exécutif de demain pour l'Europe. Donc il faut sûrement imaginer autre chose. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que cette autre chose fonctionne.
Bien entendu, alors le sort de l'euro, lui, est très 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 lié à cette vision que vous avez de l'avenir de l'Europe. Là encore, les meubles ont été sauvés durablement, vous le pensez ?
Durablement, j'en suis pas sûr. On va voir ça.
Je vous sens quand même pas dans le durablement, quoi.
On va voir ça dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Je crois que la zone euro avait besoin de messages de stabilité vis-à-vis des marchés. On va voir si ces messages seront suffisants. Moi, je ne suis pas inquiet. Je dis franchement, je ne suis pas inquiet pour l'euro. Je crois que l'euro, c'est un instrument, c'est une monnaie. L'euro, d'ailleurs, se porte plutôt bien. Hein, si on regarde sur les marchés d'échange. Il y a des problèmes techniques à gérer, des réglementations sur les marchés financiers, le rôle de la Banque Centrale Européenne. Et là, chaque fois, on progresse. Mais à mon avis, on progresse. On attend chaque fois le sommet suivant pour passer aux étapes suivantes. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui pour l'Europe, c'est la menace de récession. C'est-à-dire la menace sur les emplois, sur l'économie, sur la santé de nos entreprises. Et c'est ça le véritable enjeu. Et c'est là-dessus que l'Europe doit se mobiliser. Bien sûr, elle doit par ailleurs régler ses problèmes de gouvernance, par ailleurs régler ses problèmes financiers. C'est vrai. Et l'un est la condition de l'autre. Mais la menace de récession, c'est une menace mortelle, non seulement pour l'économie, mais pour la société européenne.
Alors vous disiez tout à l'heure que l'un des grands défis, c'était la gouvernance. L'autre grand défi, j'imagine, puisque vous disiez que c'était l'un des grands défis, c'est quoi pour l'Europe? Y a-t-il un autre défi que celui de la gouvernance qui soit encore supérieur à celui-là et au rôle de l'euro?
Oui, je crois que le défi principal, c'est celui de la légitimité des institutions européennes par rapport aux citoyens. Et c'est là où je crois que la petite institution que je représente ici, dont je suis membre, doit trouver, à condition de, aussi de, que nous rénovions nos méthodes de travail, les méthodes de travail qui datent d'il y a 60 ans et qu'on n'a pas rénovées, condition qu'on parle vrai, qu'on parle clair, qu'on porte le message de la société civile de manière plus franche, plus directe, avec notre pouvoir d'initiative et d'autres types d'interventions. Je pense que nous devons contribuer, pas seulement nous, mais nous devons contribuer à ce que les citoyens, les associations, le monde économique et social se réapproprient la construction européenne. À l'origine, il y a eu le congrès de La Haye en 1948. Congrès de La Haye 1948, il y avait une minorité d'hommes politiques, il y avait une minorité de gouvernements, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des syndicalistes, il y avait des responsables d'organisations agricoles, il y avait des gens de la société qui ont dit « Bon, on en a assez de ces guerres civiles européennes, il faut qu'on reconstruise un espace de paix et de prospérité. » Et si on ne remet pas au cœur de la construction européenne les besoins des gens, les priorités des gens, vous savez ce qui, moi, me chagrine, c'est quand je circule en France ou ailleurs, quand je rencontre des chefs d'entreprise, ils me disent pratiquement toutes et tous, nous sommes pour l'Europe, mais pourquoi l'Europe doit, par exemple, réglementer la taille des cornichons dans des bocaux? Pourquoi l'Europe ne s'occupe pas plutôt de mieux contrôler ses frontières, d'éviter les contrefaçons qui viennent de Chine, de se faire marcher sur les pieds par nos partenaires commerciaux, je dirais brésiliens, américains ou autres, parce qu'on n'a pas vraiment accès à ces marchés, aux marchés publics dans ces pays, alors eux peuvent venir chez nous. C'est sans limite. Est-ce que vraiment on investit en Europe en faveur de la recherche? Pourquoi n'y a-t-il pas de Silicon Valley en Europe? Pourquoi y a-t-il, chacun fait ses petits programmes de recherche ou d'innovation ou ses petites universités dans son coin? Et par ailleurs, la Commission européenne s'occupe de la taille des cornichons ou de la hauteur des roues sur les tracteurs forestiers.
En tout cas, ce n'est pas le Comité économique et social européen, selon la feuille de route que vous voulez lui donner, qui va s'occuper de la taille des cornichons. Vous, ben vous êtes sur l'axe de la légitimité européenne et de contribuer à faire mieux comprendre aux opinions des différents pays le pourquoi et le rôle, la mission, en quoi l'Europe est importante.
Alors, nous sommes sollicités pour donner des avis, y compris sur la taille des cornichons. Je m'excuse de prendre cet exemple.
Donc, on y revient.
Mais nous sommes sollicités. Et alors, bon, avec mes collègues, mais nous, on dit, dans ce cas-là, on ne répond pas, on envoie simplement une lettre, mais concentrons-nous sur les choses importantes. Il y a eu, au niveau des institutions européennes, notamment de la Commission européenne, je dirais, au fil des années, au fil d'une technostructure qui s'est de plus en plus complexifiée, on a oublié pourquoi on était là. On a oublié qu'on était là pour construire et non pas pour gérer et non pas pour s'occuper de détails. On est là pour construire, donc pour construire une Europe qui n'existe pas encore réellement. Savez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, seulement 10% des entreprises, c'est-à-dire des 24 millions d'entreprises qu'il y a dans toute l'Union européenne, seulement 10% bénéficient réellement du marché unique, c'est-à-dire vendent leurs produits, ont des partenariats transfrontaliers d'un pays à l'autre. 90% restent encore sur le marché local. Et il faut s'attaquer à cela, il faut inciter davantage d'entreprises à considérer le marché européen comme leur marché national.
Et c'est ça notre objectif. Intensifier donc les relations sur le marché européen à travers les 24 millions
d'entreprises. Et développer l'innovation, développer les petites et moyennes entreprises, donner des perspectives, développer la mobilité pour les jeunes, faire en sorte que pour l'emploi aussi, l'Union européenne existe comme un marché de l'emploi, qui est un marché européen de l'emploi.
Alors, le grand message que vous voulez délivrer à nos auditeurs sur le rôle, alors non seulement passé, mais futur du Comité économique et social européen, tel que vous le concevez, alors tel que on vous souhaite que vous présiderez pour au cours des 2 années et demie ou 3 années qui vont venir, à partir donc de 2012, c'est quoi les derniers messages que vous voulez passer?
Moi, je voudrais qu'on bouscule. Qu'on bouscule les choses et les institutions et qu'on fasse progresser la construction européenne à partir de propositions très concrètes pour construire une identité européenne. Car je considère qu'il faut que nos citoyens acceptent l'indispensable transfert de souveraineté, mais que cet indispensable transfert de souveraineté, d'un côté, il a besoin de s'appuyer sur une identité européenne, une fierté d'être européen. C'est la raison pour laquelle je tiens beaucoup à ce que nous mettions en avant des projets sur des médias européens, une charte de qualité pour le tourisme européen, une charte éthique européenne pour les entrepreneurs, des mouvements de jeunes entrepreneurs européens, et je pourrais citer beaucoup d'autres projets. Et en même temps, que nous soyons aussi ceux qui, sur le terrain, alertions les institutions sur tout ce qui ne va pas, sur toutes ces réglementations inutiles. Et que donc nous, en même temps que nous développons l'idéal européen, en même temps, nous le transformons en propositions très concrètes pour soutenir l'emploi, soutenir les entreprises, développer les réseaux, la mobilité, les infrastructures, faire en sorte, en fait, avec notre petite contribution, que l'on devienne fier d'être européen. Et pour cela, ce n'est pas nous qui allons faire tout ça, mais nous pouvons être l'aiguillon, le poil à gratter, qui va changer un petit peu la logique. Aujourd'hui, on a une logique européenne qui va du haut vers le bas. Nous voulons qu'on renverse et qu'on ait une logique qui parte du bas et qui aille vers le haut.
Alors, un dernier mot peut-être avant de conclure sur ce qui a beaucoup interpellé, je crois, l'opinion française notamment, cette position britannique qui est une fois dedans, une fois dehors. Alors, je ne sais pas si le Comité économique et social européen a un rôle à jouer dans ce domaine, en tout cas peut-être de pédagogie et de sensibilisation, certainement un petit peu éloigné de votre rôle principal. Mais vous, alors, en tant qu'Européen, en tant que Français, peut-être le sujet qu'il ne fallait pas aborder. En tout cas, nous allons voir ce que va nous répondre Henri. Est-ce que vous pensez que les choses sont réversibles ou pas ?
Ah non, c'est mon sujet favori, donc je suis ravi d'en parler.
Ah, bah écoutez, c'est parfait.
Je suis ravi d'en parler. Moi, je trouve qu'on a été beaucoup trop tolérant avec les Britanniques au cours des 20 dernières années.
J'avais comprendre ça.
On a été beaucoup trop tolérant parce qu'on leur a permis d'être dedans, c'est-à-dire de mettre, excuse d'être un peu trivial, mais leur nez partout, de donner leur avis sur tout, tout en sachant que dès qu'il y avait des mesures qui les gênaient, ça peut être sur le temps de travail, ça peut être l'euro, ça peut être Schengen et autres, eh bien, ils restaient en dehors. Et donc, cette situation était particulièrement confortable. La faiblesse des institutions, on a été particulièrement complaisant. Je crois que le mot que je cherchais, c'est complaisant. Et je crois que pour la première fois, lors du sommet, là, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, on a cessé d'être complaisant. Et on a dit, bon, chers amis britanniques, vous devez choisir. Vous devez choisir où vous jouez avec nous ou vous jouez en dehors. Mais vous ne pouvez pas, parce que là, ce que souhaitait M. Cameron, c'est qu'il signe le traité, il soit dans le traité, dans ce nouveau traité, mais tout en échappant à toutes ces règles et toutes ces contraintes. Donc c'est un peu facile hein, de jouer comme ça. Et je crois que Mme Merkel et M. Sarkozy, président Sarkozy, ont eu parfaitement raison de donner choix. Ils ont choisi de rester en dehors. Et moi, il se trouve qu'en ce moment, je regarde souvent la télévision britannique. Et j'ai frappé de voir que ça les préoccupe beaucoup plus eux que nous. Et si vous regardez le matin, le soir ou l'après-midi, la BBC ne parle que de ça. Est-ce que David Cameron a fait le bon choix ou pas ? Et que je peux vous dire que mes collègues, qui j'ai parlé ces jours-ci, nous avions des réunions, mes collègues qui représentent les milieux d'affaires, je dirais à la grande majorité, pas tous, mais à la grande majorité, sont très embêtés et sont très inquiets sur l'avenir de l'économie britannique, parce que plus de la moitié du commerce britannique se fait avec les pays de la zone euro, 70% avec les pays de l'Union européenne. Et bon, la City, est-ce que toutes les activités de la City ne vont pas se transférer au bout de quelques temps à Francfort ? Si Francfort devient vraiment la place financière de l'euro. Donc on verra si l'accord de jeudi dernier tient. Je pense que nos amis britanniques vont sûrement y réfléchir à deux fois. Vous avez vu qu'il y a des craquements dans la coalition gouvernementale. Moi, j'ai d'excellentes relations avec nos collègues britanniques et je sais qu'il y a chez eux, malheureusement, un peu de cette idéologie qui est encore aussi un petit peu en France, cette espèce de nostalgie du temps où, bon, comme la France était une hyper grande puissance au XVIIIe siècle, eux, c'était au XIXe siècle, donc il y a encore toujours un petit peu des relents et on y croit encore un petit peu. Donc je pense que, vous vous souvenez, dans les années 60, ce qu'avait dit le général de Gaulle à propos de l'Angleterre.
Hein, des choses pas très agréables.
Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, on est dans une nouvelle phase dans laquelle il y a un peu une opération de vérité. Mais moi, je reste confiant, je crois qu'à long terme, l'intérêt du Royaume-Uni, c'est d'être dans l'Europe. Et je crois que donc à long terme, ils nous rejoindront dans une Europe plus forte et plus intégrée.
Bien, écoutez, laissons cette nostalgie aux Britanniques et nous regardons l'avenir avec le Comité économique et social européen, qui est donc, nous l'avons compris, la voix de la société civile. Et donc, nos éditeurs l'auront aussi compris en vous écoutant, que vous, Henri Malos, vous êtes la voix de la confiance dans l'Europe, ce qui augure très positivement de l'avenir du Comité économique et social européen. Je vous remercie pour cet entretien et j'espère qu'on vous reverra rapidement sur notre antenne.
Avec plaisir.
Et en tout cas, bonne chance.
Merci
à très
beaucoup.
Bientôt.